Chapitre 45. Callan se perdit dans la contemplation des motifs du tapis à ses pieds. Soutenir le regard de Jagang en ce moment précis n'aurait servi à rien sinon à énerver un peu plus le tyran. Lorsque les sœurs l'avaient obligé à marcher alors qu'elle chevauchait, Callan s'était dit que cette épreuve l'endurcirait, lui donnant le supplément de force dont elle aurait un jour besoin. Habituée à gérer ses ressources, si maigres fussent-elles, elle n'allait sûrement pas en gaspiller pour défier inutilement l'empereur. Actuellement, Jagang avait l'avantage, et il pouvait faire d'elle ce qui lui chantait. Elle devait contenir sa rage jusqu'à ce qu'une occasion se présente. Tôt ou tard, elle aurait une ouverture pour frapper et se venger. Il en allait toujours ainsi dans la vie. Même s'il lui fallait pour cela se jeter dans les bras glacés de la mort, Callan déchaînerait un jour sa fureur sur les bouchers de l'ordre et sur leurs chefs, en son propre nom et en hommage à toutes leurs innocentes victimes. Ayant baissé les yeux, elle vit d'abord la pointe des bottes du prédateur. Retenant son souffle, elle s'apprêta à sentir le contact de ses mains sur son corps. Comment allait-elle réagir aux outrages que cet homme gardait en réserve pour elle? Impossible de le savoir avant d'avoir vécu cette horreur. À tout hasard, Callan leva les yeux pour mémoriser la position du couteau glissé à la ceinture de l'empereur. Prudent, il avait posé la main sur le manche en corne.
« Nous allons sortir, »
annonça-t-il.
« Pourquoi ?»
s'étonna Callan.
« Ce soir, il y a un tournoi de Jala. Plusieurs équipes s'affronteront. Nous organisons très souvent des compétitions de ce genre. » La présence de leur empereur donne du cœur au ventre aux joueurs. Des équipes composées de joueurs du Nouveau Monde participent également aux compétitions. Pour les vaincus, c'est une excellente occasion de s'intégrer à la culture de l'ordre impérial, une manière de prendre place parmi les peuples de l'Ancien Monde. Les champions de Jala sont des héros, et les femmes se battent pour entrer dans leur lit. Les membres de mon équipe sont des joueurs de génie qui ne perdent jamais. Après chaque partie, des légions d'admiratrices les attendent à la sortie du stade, prêtes à écarter les jambes pour eux. Ces gars-là fascinent les femmes et ils n'ont qu'à se baisser pour en cueillir.
Étant empereur, songea Callan, Jagang aussi devait avoir l'embarras du choix en matière de conquête. Mais les victoires faciles ne l'intéressaient sûrement pas. S'imposer à elle l'excitait, elle le sentait. Ce qu'on lui offrait de bon cœur ne l'intéressait pas. Il aimait prendre et posséder, de préférence des femmes qui ne voulaient pas de lui.
« Ce soir, plusieurs équipes joueront pour un prix très important. Tous les pratiquants rêvent d'affronter mon équipe pour le titre officieux de champion des champions. Une ou deux fois par mois, mes petits gars flanquent une bonne raclée au vainqueur d'un tournoi qualificatif. Mon équipe n'a jamais perdu. Du coup... Tous les autres brûlent d'envie de lui infliger sa première défaite. En cas de victoire, les récompenses seraient somptueuses, sans parler des femmes qui s'offrent actuellement à mes joueurs et qui se précipiteraient sur les nouveaux héros. »
Jagang insistait lourdement sur le comportement de ses filles faciles. Était-ce l'expression de son profond mépris pour les femmes, ou une façon de dire qu'elles étaient toutes les mêmes, y compris sa prisonnière? Sur ce point précis, il se trompait totalement. Les athlètes sans cervelle n'étaient pas du goût de Callan, exactement comme les empereurs incapables de dîner sans se mettre du gras et du sang partout.
« Si votre équipe ne joue pas, pourquoi vouloir regarder les parties ?»
Sauf lorsqu'elle était hors d'elle. Callan préférait vous voyez le tyran. Une manière de garder ses distances avec lui.
« Vous connaissant, ce n'est pas par bonté d'âme que vous assistez au tournoi. Je me trompe ?»
Jagang parut étonné par tant de clairvoyance, ou par la naïveté d'une telle question, c'était difficile à dire.
« J'espionne ces équipes, bien entendu. Je prends note de leurs forces et de leurs faiblesses pour le jour où elles se frotteront à mes gars. Voyons, ma petite chérie, c'est ce que tu fais tout le temps. N'essaie pas de me dire le contraire parce que je ne te croirai pas. » Tu graves dans ta mémoire la configuration des lieux, la forme des armes, la position des sentinelles et la localisation des voies d'évasion. À chaque instant, tu es en quête d'une occasion de t'assurer un petit avantage sur tes adversaires. Je te vois élaborer une stratégie et je ne peux pas m'empêcher de sourire intérieurement. Le Jala repose sur les mêmes fondations. C'est une affaire de stratégie et de tactique.
J'ai suivi quelques parties. Et à mes yeux, la stratégie est secondaire. L'essentiel dans ce jeu, ce sont la force et la cruauté.
Jagang eut un rictus méprisant.
Si tu n'apprécies pas les subtilités de ce jeu, tu aimeras sûrement voir des hommes à la peau lustrée de sueur s'affronter en un combat loyal. En général, c'est ce que les femmes préfèrent sur un terrain de Jala. Les hommes apprécient la stratégie, les exigences de la compétition, la camaraderie des fêtes qui suivent les grandes victoires et le statut privilégié des champions. Alors que les mâles s'imaginent à la place des joueurs, les femmes satisfont leur tendance au voyeurisme. Elles adorent voir les plus forts triompher, sais-tu? Leur rêve, c'est d'être désirées par ces demi-dieux, et elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça arrive.
Moi, ils me laissent de marbre, vos héros. Ce sont au mieux des brutes en rut.
Jagang haussa les épaules.
Dans ma langue maternelle, les mots Jaladijin signifient le jeu de la vie. L'existence n'est-elle pas un conflit permanent? La lutte des classes, le combat des sexes, comme le Jala, tout simplement.
Pour Kalan, si la violence pouvait faire partie de la vie, elle n'en était en aucun cas l'essence. Quant au sexe, ils n'étaient pas rivaux, mais conçus pour partager avec amour les fardeaux et les joies de l'existence.
Pour les gens comme vous, il en va ainsi. C'est ce qui nous distingue, Jagang. J'utilise la violence quand il s'agit de sauver ma vie ou celle d'êtres qui me sont chers. Pour vous, c'est l'unique moyen de satisfaire vos désirs, même les plus ordinaires. Savez-vous pourquoi? Parce que vous n'avez rien à offrir en échange de ce que vous convoitez. Y compris avec les femmes, vous prenez par la force parce que vous êtes incapable de mériter du désir ou de l'amour. Je vaux mieux que vous, Jagang. Parce que vous méprisez la vie, moi, je la vénère. Pour dissimuler le fiasco de votre existence, vous vous acharnez à détruire tout ce qui est beau et bon. C'est pour ça que vous me détestez. Je suis bien meilleur que vous et cette idée vous est insupportable.
« De telles croyances sont hérétiques !»
cria Jagang.
« Accorder de la valeur à sa propre vie est un crime, contre le Créateur et contre l'humanité !»
Voyant que Kalan ne se repentirait pas, loin de là, l'empereur plissa le front, se pencha légèrement en avant et pointa un index accusateur sur l'insolente. Alors que le doigt orné d'une bague en or, prélevée dans un butin évidemment, s'agitait devant son nez, la prisonnière eut l'impression d'être une enfant têtue qui risquait fort de recevoir une fessée si elle n'en rabattait pas.
« La confrérie de l'ordre nous apprend qu'être meilleur qu'une personne revient à être pire que tout le monde. »
Kalan ne sut qu'objecter à ce sophisme d'une imbécilité cosmique. Qu'un empereur puisse proférer des âneries pareilles donnait la mesure de sa nature profondément barbare. Par la même occasion, on avait un bel aperçu du véritable visage de l'ordre impérial. Fondé sur quelques concepts à première vue acceptables, par exemple le besoin d'égalité inhérent à toute société, cette philosophie s'était pervertie pour devenir une machine à broyer les êtres humains au nom de leurs intérêts supérieurs. Un réseau de nobles justifications pour une cause qui érigeait au contraire en règle de vie la violence, l'intolérance et la cruauté. Face à Jagang, Kalan comprenait enfin les émotions brutes qui motivaient les bouchers de l'ordre. N'ayant de soldats que le nom, ces criminels aspiraient à tuer tous ceux qui ne partageaient pas leur foi aveugle. Un tel fanatisme équivalait en fait au refus de la civilisation en faveur d'une brutalité confinant à la barbarie. Pour ces hommes, le but ultime était d'écraser toutes les idées nobles et tous ceux qui osaient les avoir. Grâce à la phraséologie de l'ordre, les pires voleurs pouvaient se prendre pour des philanthropes, et les tueurs en série imaginaient être des anges exterminateurs, méritant d'être absous parce qu'ils avaient versé le sang de terribles corrupteurs de l'humanité. Le talent et le mérite étant des notions impies, il devenait normal que le bénéfice d'une action ou d'une invention ne revienne jamais à celui qui en était à l'origine. Dans cet ordre d'idées, récompenser les incultes et les fainéants devenait un imparable moyen de perpétuer l'oppression des peuples. Frappé d'anathème, l'individualisme devenait le péché capital. En même temps, cette attitude trahissait une faiblesse consubstantielle face à la vie. En d'autres termes,
une réelle incapacité à exister au niveau supérieur censé être celui de l'humanité. Avec leur bestialité, les zélateurs de l'ordre ne cherchaient pas seulement à détruire tout ce qui avait de la valeur en l'homme. Se méprisant eux-mêmes, ils exprimaient à travers la violence l'angoisse que leur inspirait tout ce qui était beau et noble. Leur haine de la vie, si on creusait un peu, s'expliquait par une incapacité maladive à vivre. Comme tous les systèmes de pensée irrationnels, la philosophie de l'ordre était inapplicable dans le monde réel. Pour conquérir, ne fallait-il pas oublier le rêve un peu niais d'égalité et de fausse fraternité? Dans chacun de leurs actes, les membres de l'ordre, quelle que soit leur place au sein de la hiérarchie, piétinaient les valeurs mêmes qu'ils prétendaient défendre. Par exemple, on ne trouvait pas l'ombre d'un égal dans l'ancien monde, alors que Jagang et les siens tenaient l'égalité pour une valeur phare. Qu'on soit joueur de Jala, soldat ou empereur, on cherchait à être le meilleur avec les encouragements les plus actifs du corps social. Du coup, on vivait dans un système de double pensée où on arrivait à mépriser et avouer aux gémonies ce qu'on était et qu'on n'aurait pour rien au monde renoncé à être. Histoire de se dédouaner d'un vestige de culpabilité, il devenait alors fort commode de clamer aux quatre vents que l'humanité n'était qu'un ramassis de lâches, de mécréants et d'hypocrites. Experts en matière d'hypocrisie, justement, les têtes pensantes comme Jagang en venaient à blâmer les victimes pour mieux exonérer les bourreaux de leurs responsabilités. Dans ce processus, la foi jouait le rôle d'un indispensable hallucinogène. S'il ne s'était pas caché derrière l'image fumeuse d'un créateur ivre de courroux, quelle étrange conception de la divinité, les fous furieux de l'ordre n'auraient jamais pu faire avaler leurs ignobles couleuvres au peuple des deux mondes.
« J'ai déjà vu une partie de Jala, » dit Kalan, « et ça m'a largement suffi. »
Elle voulut tourner le dos à Jagang, mais il la saisit par les épaules et la força à le regarder en face.
« Je sais que tu es pressé de coucher avec moi, mais il te faudra attendre. Pour l'instant, nous allons assister au tournoi de Jala. Si la stratégie et l'esprit de compétition ne t'intéressent pas, rince-toi l'œil. En regardant de beaux jeunes hommes se rouler dans la poussière, ça te mettra dans l'état d'esprit idéal pour ce qui t'attend ce soir. Allons, ma petite chérie, maîtrise ton impatience, je t'en prie. »
Kalan se sentit soudain idiote de ne pas sauter sur une occasion de différer l'inévitable. Mais elle n'avait aucune envie de se retrouver parmi les bouchers de l'ordre. Hélas, elle n'aurait pas le choix. Si elle se souvenait qu'il ne la voyait pas, supporter les soldats serait plus facile. Elle devait se ressaisir, ne pas céder à une panique aveugle. Quand Jagang l'attira vers la sortie du pavillon, Kala ne résista pas. Ce n'était pas le moment et de toute façon, ça n'aurait servi à rien. Les cinq gardes spéciaux attendaient dehors. Bien entendu, ils remarquèrent que la prisonnière était habillée, mais ils s'abstinrent de tout commentaire. Aux aguets, prêts à bondir sur Kalan au moindre geste suspect, ils tenaient visiblement à faire bonne impression devant leur empereur. Pour Jagang, être meilleur que quelqu'un n'était pas un problème, et ça ne le rendait certainement pas pire que tout le monde. Ce type luttait pour une cause en s'exemptant d'en respecter les règles, et tous ses séides en faisaient autant. Un comportement minable, vraiment, même s'il valait mieux pour son propre bien que Kalan ne le dénonce pas à voix haute.
« Je te présente tes nouveaux gardes, » dit Jagang, « comme ils sont capables de te voir. N'espère pas leur faire subir le même sort qu'aux deux précédents. »
Les cinq imbéciles semblaient très satisfaits d'eux-mêmes et rassurés par l'allure inoffensive de la prisonnière placée sous leur responsabilité. Kalan étudia de pied en cap le premier homme que les sœurs avaient recruté, le complice du type au nez cassé. D'un coup d'œil, elle évalua la qualité de ses armes, un vieux couteau et une épée au tranchant émoussé et à la garde rafistolée avec des bouts de bois. Et se fit une idée assez précise de son caractère. Lâche et velléitaire, ce type ne devait pas avoir d'égal quand il s'en prenait à des femmes et à des enfants. Face à un autre guerrier, il n'aurait pas voulu tripette, c'était évident. En guise de militaire, c'était un banal voyou, un maître de l'intimidation bien plus que de l'escrime. Au sourire satisfait qu'il affichait, Kalan comprit qu'elle ne l'impressionnait pas le moins du monde. Après tout, n'était-il pas passé à un cheveu de la besogner allègrement sous sa tente? C'est toi que je tuerai le premier,
dit Kalan en le regardant droit dans les yeux.
Les autres soudards ricanèrent.
Les soumettant à un examen rapide, Kalan conclut qu'ils ne valaient pas mieux que leurs camarades.
Et toi, Nekassé, tu mourras après lui.
Et nous ?
Demanda en riant l'un des trois autres hommes.
Dans quel ordre nous élimineras-tu ?
Vous le saurez une seconde avant que je vous égorge.
Les cinq gardes rirent aux éclats. Pas l'empereur.
Vous seriez avisé de la prendre au sérieux, dit-il. La dernière fois qu'elle a mis la main sur un couteau, elle a tué mes deux meilleurs gardes du corps. Soit dit entre nous, vous ne leur arrivez pas à la cheville en matière de compétences. Elle a aussi abattu une sœur de l'obscurité. Tout ça sans aucune aide et en quelques minutes.
Les rires moururent avec un bel ensemble.
Si vous n'êtes pas vigilant, tas de crétins prétentieux, je jure de vous éventrer de mes propres mains. Et si elle s'évade à votre nez et à votre barbe, je demanderai à mes bourreaux de vous torturer pendant un mois et un jour, histoire que votre chair ait commencé à pourrir avant que vous ayez quitté ce monde.
Les gardes spéciaux n'eurent soudain plus aucun doute sur l'importance et le sérieux des ordres de Jagang. L'imposante escorte qui l'attendait, des centaines de soldats d'élite armés jusqu'aux dents, emboîta le pas à l'empereur lorsqu'il s'éloigna résolument de son pavillon. Les cinq gardes formaient un demi-cercle autour de Kalan. Et il n'y avait qu'un trou dans la formation, à l'endroit où Jagang la flanquait. Quand l'imposante colonne fut sortie du premier cercle, les soldats de l'escorte dégainèrent leur épée. Comme tout chef sensé, Jagang prenait des précautions normales contre d'éventuels tueurs infiltrés dans son camp. Mais il n'y avait pas que ça. Se croyant meilleur que tout le monde, l'empereur tenait à sa précieuse petite vie.